quelle grâce. Dieu prend soin des siens. Dieu prend soin. La présence de Dieu était là comme une nuée. Et le soir, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant leur marche. C'est-à-dire que la présence de Dieu, elle était là jour et nuit. Jour et nuit. Le jour pour les protéger, le soir pour les réchauffer parce qu'il faisait froid, et en même temps pour faire fuir tout ce qui est hostile au peuple d'Israël. Quelle grâce d'avoir un Dieu qui est fidèle. Sa présence est là. La Shekhinah, la présence de Dieu était dans le tabernacle, de jour comme de nuit. Mais pour que cette présence vienne, il fallait quelque chose. Il fallait que le tabernacle soit fait selon un modèle qui a été montré. Exode 25-40, il dira, « Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. » La suite, Exode 26-30, « Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que la présence de Dieu descende, qu'elle se manifeste dans le tabernacle, il fallait que le tabernacle soit construit selon un modèle. Le modèle qui a été représenté, le modèle que Dieu voulait. On ne pouvait pas monter le tabernacle comme nous voulons. Si je vous donne des exemples, je parle entre nous. Si Moïse ou Aaron, lorsqu'ils montaient le tabernacle, si eux, ils avaient envie de mettre une fenêtre au-dessus, ils ne pouvaient pas. S'ils faisaient ça, la présence de Dieu ne descendait pas. Pourquoi ? Parce que le tabernacle n'était pas construit, n'était pas dressé selon le modèle qui lui a été montré. Pour que la présence de Dieu descende, il fallait que le tabernacle soit dressé, il fallait que le tabernacle soit monté selon le modèle qui a été montré, selon la volonté de Dieu. Dieu voulait comme ça, c'est comme ça. Si nous, on décide de monter le tabernacle d'une autre manière, la présence de Dieu ne descendait pas. La gloire de Dieu ne descendait pas. Mais si on vous pose la question maintenant aujourd'hui, mais où est le tabernacle? Mais on parle d'un temps de Moïse. Il y a des années en arrière. Il n'y est plus le tabernacle. Donc une autre question se pose. Qui est le tabernacle aujourd'hui? Et si je vous pose la question ce matin, qui est le tabernacle? Qui est l'habitation de Dieu? Qui c'est? Ben c'est nous. Il nous est dit dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Qui est le temple de Dieu? Qui a reçu le Saint-Esprit? Tu es l'habitation de Dieu? Gloire à Dieu. Il nous est dit dans 1 Corinthiens 6, 19 aussi, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ?» Donc vous êtes le temple de Dieu? En gros, vous êtes le tabernacle de Dieu, le Saint-Esprit habite en vous? Alors vous voulez que la gloire descende? Vous voulez que sa présence descende? Alors, comment faire pour que la présence de Dieu remplisse nos vies? Si nous sommes à l'image de ce tabernacle, si maintenant le Saint-Esprit habite en nous, si Dieu habite en nous, si nous sommes l'habitation de Dieu, comment faire pour que cette présence, qui était de jour comme de nuit sur le tabernacle, soit pareille pour nous? Moi, je veux sa présence de jour comme de nuit. Parce que Dieu est fidèle. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Lui, il est fidèle. Mais est-ce que moi, je le suis? Est-ce que moi, je le suis? Alors comment faire pour que la présence de Dieu remplisse nos vies? Eh bien, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Mais vous allez me dire, mais ça c'est le mont Horeb. Le mont Horeb, ce n'est pas ça que je dois regarder. Alors, il est où notre exemple? Il est où notre modèle? Si pour eux, l'exemple était le mont Horeb, pour nous, il se trouve au mont Golgotha. Notre modèle, c'est Jésus. Notre modèle, c'est Jésus. Non seulement c'est un tabernacle, mais c'est pas seulement un modèle qui nous est montré, mais c'est le tabernacle descendu du ciel. C'est Dieu qui est descendu. Il nous est dit dans le passage plus loin, dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 14, « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Vous savez, ce mot, elle a habité. Lorsqu'on parle des textes originaux, le véritable mot, il est venu tabernacler. Il s'est tabernaclé. Le tabernacle par excellence, c'est Jésus. Non seulement que la présence de Dieu est en lui, mais il est Dieu. Et elle est venue habiter parmi nous. Et nous, notre modèle, c'est Jésus. Jésus à la croix, où il a pris nos péchés, où il a pris notre faute. Il a payé pour nous. Et qu'est-ce que nous pouvons voir à la croix ? Eh bien, les fameuses sept paroles. Vous savez, je vais vite abréger, parce qu'en réalité, chaque parole que Jésus a pu dire peut apporter un message, une prédication d'une heure et demie. Parce que chaque parole est essentielle. Il n'a pas dit des paroles en vain. Il a dit des paroles qu'il fallait. Mais ce matin, nous voulons que notre présence, que sa présence dans nos vies soit constante. Et pour que cela, il faut que notre temple soit construit selon le modèle qui nous est montré. Et nous allons voir la première parole. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Luc 23, 34. Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Vous voulez la présence de Dieu dans votre vie ? Moi, je veux la présence de Dieu dans ma vie. Mais comment je peux avoir la présence de Dieu dans ma vie si le pardon n'existe pas dans mon cœur ? Tu veux que la gloire de Dieu descende ? Je veux que la gloire de Dieu descende. Mais pour que cette gloire descende, pour que la présence de Dieu descende, il faut que le tabernacle, il faut que ce temple soit construit selon le modèle qui nous est montré. Et là, la première parole, c'est le pardon. Après tout ce que Jésus a passé, on l'a frappé, on l'a injurié, on l'a humilié, faussement. Et lui, la première parole, c'est le pardon. Je ne sais pas par où tu passes, ou je ne sais pas si tu passes par des difficultés, mais si tu veux la présence de Dieu, si tu veux que cette gloire remplisse ta vie, si tu veux que cette gloire remplisse le tabernacle, il faut qu'il y ait un pardon dans ton cœur. S'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de présence de Dieu. Je ne vais pas mâcher mes mots. On va dire ce que la Bible dit. Si vous ne pardonnez pas, le Père ne vous pardonne pas. Le pardon est essentiel. Le pardon est vital. Le pardon est salutaire. Seigneur, je veux ta présence. Je veux que ta gloire se manifeste dans ma vie. Je veux ta présence. Oui, et le pardon, il est où ? S'il n'y a pas de pardon. Donc, s'il y a quelque chose dans notre cœur, que nous puissions être selon le modèle. Oui, mais j'ai souffert, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Personne n'a souffert autant que Jésus. Hein. Personne n'a été méprisé autant que lui. Hein. Et pourtant, sa première parole, ça a été le pardon. Alors que nous puissions pardonner pour que la présence de Dieu descende dans notre vie. La deuxième parole, Jésus lui dit, en vérité au brigand qui est à côté, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Luc 23, 43. Qu'est-ce que nous pouvons en tirer de cette parole ? Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Mais en gros, c'est l'assurance du salut. Je vous dis la vérité, je suis franc, on est des frères, on est des sœurs. Hein. Je trouve pas logique que des personnes n'aient pas l'assurance de leur salut. Ils viennent, on vient à l'église, on écoute la parole de Dieu et on continue à vivre notre vie. Mais au plus profond de nous, si on nous pose la question, si Jésus revient maintenant, faisons-nous une analyse, on va dire une IRM spirituelle, analysons notre vie. Si Jésus revient maintenant, qu'en est-il de ta vie ? Qu'en est-il de ton état ? Est-ce que tu t'en vas avec le Seigneur ? Si Jésus revient chercher son église, est-ce que tu feras partie de son voyage ? Est-ce que tu es sûr de ton salut ? Pas un chrétien d'étiquette, pas quelque chose de religieux, un véritable chrétien, un véritable enfant de Dieu, celui dont son nom est inscrit dans le livre de vie, l'assurance du salut. Seigneur, je veux que ta présence soit dans ma vie, je veux que la gloire descende, mais je ne suis même pas sûr d'être sauvé. Je vis ma vie comme je veux. Examinons-nous. Entre nous, pas besoin de le crier, mais entre toi et Dieu, dans ton cœur. Et je te pose cette question. Si Jésus revient maintenant chercher son Église, qu'en est-il de ta vie ? Es-tu sûr de ton salut ? Es-tu sûr de partir avec lui ? Si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à prendre conscience et à avoir cette certitude. Aujourd'hui, je suis sauvé. aujourd'hui, je suis sauvé. Amen. Nous allons continuer. La troisième parole. Jésus, voyant sa mère auprès d'elle, dit au disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et de ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Jean 19, 26. Là, il y a un passage dans Timothée qui dira ainsi, « Celui qui ne prend pas soin des siens et bien plus ceux de sa famille, c'est quelqu'un qui a perdu la foi et il est pire qu'un infidèle. » Nous devons prendre soin de notre famille. Nous devons prendre soin de nos proches, les siens. Quelquefois, on vient, oui, je veux la gloire de Dieu, je veux la présence de Dieu, je veux que Dieu se manifeste dans ma vie, gloire à Dieu. On chante, on assiste aux réunions, on prie. Mais notre propre famille, on les délaisse. Notre propre famille, on les met de côté, on les méprise. La parole de Dieu nous dit que celui qui méprise les siens est pire qu'un infidèle. Je ne dis pas que si nous sommes, ils n'appartiennent pas à Dieu, il faut cautionner ce qu'ils font. Non. Mais il faut prendre soin. Les premiers que je dois évangéliser, le premier à qui je dois apporter la parole, c'est les membres de ma famille. Et quelquefois, on les méprise, on les met de côté. Non, prenons conscience. Chacun d'entre nous, nous sommes le berger, le pasteur de notre maison, de notre famille. Si on habite dans un endroit où notre famille n'est pas convertie, ben c'est toi le modèle. C'est toi qui dois aller apporter le salut par ton exemple, par ta fidélité, par ton amour. Prends soin des tiens. Prends soin des tiens. Seigneur, je veux que la présence de Dieu vienne, mais je méprise mon fils, je méprise mes parents, la belle-mère. Même la belle-mère, il faut prendre soin. Et spirituellement aussi. La mère, je voudrais la considérer comme l'Église. Spirituellement, l'Église, c'est la mère. Nous devons prendre soin de l'Église. Nous devons être attentionnés. Il y a des anciens, il y a des personnes qui sont âgées, et même les locales, nous devons prendre soin de l'Église. Seigneur, je veux que ta présence soit dans ma vie, mais je ne respecte même pas l'Église. Je ne fais pas attention à l'Église. Ah, qu'il le fasse un, qu'il le fasse l'autre. Non, spirituellement, c'est la mère. Prenons soin de l'Église. Prenons soin des uns des autres. Et en tant qu'Église et en tant que mère, voici ton fils. Prenons soin de ceux qui arrivent, des nouveaux. Souhaitons-leur un bonjour. Démontrons-leur de l'amour. Et quelquefois, dans nos actions, je parle peut-être pas ici, hein, je pense pas, mais bon. Quelqu'un vient de se convertir, c'est un jeune converti, ça fait pas longtemps qu'il a pris les eaux du baptême, et on est là en train de... Tu as vu ce qu'il a fait? Tu as vu comment il agit? Tu as vu ci, tu as vu ça, tu as vu l'autre? On voudrait qu'en 2 mois de conversion, il se comporte comme nous, que nous avons 30 ans de conversion. Soyons indulgents, comme si c'était un enfant. Vivons avec de l'amour. Montrons-lui ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, mais sans le juger. Sans le critiquer. Seigneur, je veux ta présence dans ma vie. Oui, mais j'arrête pas de critiquer. Je veux ta présence dans ma vie, mais j'arrête pas de juger. Je veux ta présence dans ma vie, mais j'arrête pas de murmurer. S'il vous plaît, prenons soin les uns des autres. Et la présence de Dieu descendra dans ma vie. Vous voulez la présence de Dieu? Alors prenez soin les uns des autres. Amen. Si nous prenons la quatrième parole, et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, 46. Il y a deux interprétations pour ce texte. Le premier, qui est souvent connu, qu'il y a une séparation par rapport, parce que Jésus a pris le péché, donc Dieu s'est détourné de lui. Mais moi, pour le message ce matin, je vais partir sur la deuxième interprétation. Vous savez que avant 1500, il n'y avait pas de verset dans la Bible. Il n'y avait pas de chapitre. Tout était écrit en continu. Alors, comment faire pour faire une référence biblique? Quand on voulait faire ressortir un récit de la parole de Dieu, comment est-ce qu'il fallait faire? Eh bien, il y avait deux solutions. Soit on faisait une allusion et on disait le mot qu'il fallait faire ressortir. Un exemple, lorsque les disciples de Jean le Baptiste vont voir Jésus, Jésus ne va pas dire, il est écrit dans Ésaïe chapitre, il a dit, va dire à Jean que les aveugles voient, les boiteux marchent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Il fait allusion à un récit. Lorsqu'il est dans le désert, que le diable essaye de le tenter, Jésus dira, il est écrit, mais il n'avait pas dit, il est écrit, Ésaïe chapitre 3, il est pas, non, il est écrit et il cite, l'homme ne mangera pas de pain seulement, et ainsi de suite. Et là, à la croix, lorsqu'il dit, Élie, Élie, là, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est qu'en réalité, Jésus faisait allusion où il voulait citer le psaume 22. Le psaume 22, il dira quelques versets. Et le premier verset commence ainsi. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le verset 8 dira, tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche et secouent la tête. C'est ce qui s'est passé. Verset 9, recommande-toi à l'Éternel et l'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il aime. C'est la référence qu'a donnée le pasteur dans la Sainte-Seine. Verset 16, ma langue s'attache à mon palais. C'est le fameux j'ai soif qu'on verra plus tard. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Verset 17, verset 18, je pourrai compter tous mes os. Et verset 19, « Il se partage mes vêtements et tire au sort ma tunique. » Ce n'est pas ce qui s'est passé à la croix. En quelques mots, ce que moi je voulais dire ce matin, c'est que Jésus, sa vie était conforme aux Écritures. Sa vie était en adéquation avec ce qui est écrit. Maintenant, je vous pose une question, je me pose la question, est-ce que ma vie est en adéquation avec ce qui est écrit? Est-ce que je vis selon les Écritures ou je vis selon mon propre gré? Est-ce que j'applique ce qui est écrit? Est-ce que les Écritures font partie de ma vie? Ou est-ce que je vis comme on me semble et je prends quelques versets par-ci, par-là pour me faire ma propre illusion? Si tu veux que la présence de Dieu descende dans ta vie, si je veux que la présence de Dieu descende dans ma vie, il faut que mon tabernacle soit construit selon le modèle qui m'a montré. Et Jésus, toute sa vie, était en parfaite cohésion avec les écrits. Est-ce que ta vie est en cohésion avec les écrits? Est-ce que ma vie est en cohésion avec les écrits? Si je veux que la présence de Dieu descende, il faut que ma vie soit en cohésion avec ce qui est écrit. Je ne veux pas être très long, je veux passer à la cinquième parole. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, regardez, dit « afin que l'Écriture soit accomplie ». Ça confirme un peu le psaume 22. « J'ai soif. J'ai soif. » Je pose une question, mais ne répondez pas, c'est entre vous et Dieu, entre moi et Dieu. « J'ai soif. » Est-ce que vous avez soif de la parole de Dieu? Est-ce que vous avez soif de la présence de Dieu? Est-ce que vous avez soif d'écouter sa parole? Ou est-ce que simplement les jours de réunion, lorsqu'on se donne rendez-vous? J'ai soif. Si on veut que la présence de Dieu descende dans notre vie, si je veux que la présence, la gloire de Dieu descende dans ma vie, il faut que j'ai soif de sa présence. Il faut que j'ai soif de sa parole. Il faut que j'ai soif d'étudier, de lire la Bible, d'écouter des chants, d'être dans sa communion, d'être dans sa présence. Je veux la gloire dans ma vie. Je veux que la gloire de Dieu descende de jour comme de nuit. Sauf que je prie que quand je suis dans l'église. À la maison, il faut chercher le temps. Je lis la parole que lorsque les versets sont affichés. Tu veux la gloire de Dieu. Je veux la gloire de Dieu dans ma vie. Moi, je la veux. Il faut que j'ai soif de sa présence. Il faut que j'ai soif de lire. Il faut que j'ai soif d'être connecté avec lui. Si je veux avoir la gloire de Dieu dans ma vie, je dois avoir soif de sa présence. Sixième parole. Lors donc que Jésus prit le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Jean 19, 30. Tout est accompli. tout est accompli. Le tout accompli, il n'y en a qu'un qui peut le dire, c'est Jésus. On ne va pas se voiler la face. Moi, je ne peux pas dire tout est accompli. Lui a dit tout est accompli. Mais qu'est-ce que ça peut référer? Quel exemple nous avons là-dessus? C'est que Jésus a accompli ce que le Père avait demandé. Et quelquefois, nous, dans nos vies, est-ce que nous accomplissons ce que Dieu nous demande? Seigneur, je veux la gloire dans mon cœur. Je veux que ta présence soit là. Je veux parler en langue, je veux prophétiser, je veux que ta présence soit là. Mais je suis incapable d'accomplir ce que Dieu me demande. Parce que lorsque Dieu nous demande quelque chose, il ne nous demande pas l'impossible. Il nous demande ce que nous pouvons faire. Je vous donne un exemple. Quelle est une des choses les plus simples que Dieu nous a demandé? D'être fidèle dans les petites choses. Et il nous en donnera des grandes. Si je pose une question au pasteur, une des choses les plus simples, c'est la fidélité à l'Église. Que ce soit le dimanche matin, gloire à Dieu. Je jette une pierre en l'air et on va essayer de se sauver. Qui a besoin de prière? Priez pour moi, je suis malade, priez pour ma famille. Que ceux qui ont besoin de prière, lèvent la main. Moi, j'ai besoin de prière. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que nous sommes tous dépendants de lui. Nous avons besoin de prière. Mais lorsque le rendez-vous des journées de prière s'annonce, qui vient prier? Seigneur, je veux ta gloire dans ma vie. Je veux ta présence dans ma vie, mais je suis incapable d'être fidèle aux petites choses. Je veux qu'on prie pour moi, mais moi, prier pour les autres. Ah, ça me fait tard, je ne viens pas. Ou alors il fait chaud, ou il fait froid. On a toujours une bonne excuse. Mais par contre, pour qu'on prie pour nous, tout le monde est capable. Si tu veux qui veut la présence de Dieu dans sa vie? Moi, je la veux. Que je puisse être capable d'être fidèle aux petites choses. Rien qu'à la fidélité au sein de l'Église. La fidélité auprès de mes frères. Ça vaut tout l'or du monde. Et là, la présence de Dieu pourra venir. Seigneur, je veux la... Mais alors, que quand ça t'arrange? Nous sommes contents lorsque nous demandons à Dieu et que Dieu accomplisse ce que nous lui demandons. Quelle gloire, Seigneur, je t'ai demandé, tu m'as exaucé. Seigneur, j'avais besoin, tu m'as sorti. Seigneur, j'étais malade, tu m'as guéri. Et lui, il nous demande, soyez fidèles. Et là, quelquefois, il n'y a personne. Si je veux la présence de Dieu dans ma vie, je dois être fidèle aux petites choses. Et Dieu m'en donnera des grandes. Nous allons voir la septième parole. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Luc 23, 46. Je remets mon esprit entre tes mains. Là aussi, c'est un exemple. Par qui es-tu dirigé? Par qui je suis dirigé? Est-ce que je laisse mon esprit entre les mains de Dieu? Est-ce que je le laisse diriger ma vie? Est-ce que je le laisse me conduire? Ou est-ce que je conduis, moi, ma vie comme bon me semble? Et j'écris à Dieu simplement lorsque j'en ai besoin. Si je veux que la présence de Dieu soit dans ma vie, si je veux que la présence de Dieu me remplisse de jour comme de nuit, ben je dois vivre selon l'Esprit. Marcher selon l'Esprit. Et non selon la chair. Que mon esprit soit entre tes mains. Seigneur, dirige toutes choses. Que le Saint-Esprit soit libre. Vous savez, arrêtons de mettre le Saint-Esprit entre quatre murs et laissons-le agir. Dans nos vies, Seigneur, agis. Entre tes mains, je remets mon esprit. Je veux être dirigé par toi, mon roi. Tu m'as sauvé, tu m'as guidé. Tu es le chemin. Tu nous as laissé le Saint-Esprit, celui qui nous conduira dans la vérité. C'est ça? Non, dans toute la vérité. Et si on se laisse conduire par lui, il ne peut pas se tromper. Seigneur, je veux ta gloire dans ma vie. Je veux, comme le tabernacle, je veux que ta présence descende de jour comme de nuit. Mais sauf qu'au lieu d'être guidé par le Saint-Esprit, je suis guidé par mes idées. Je suis guidé par mes habitudes. Je suis guidé par mes compétences. Je suis guidé parce que je suis fort, parce que je suis ci, parce que je suis là. Non, Dieu prend les choses faibles pour confondre les fortes. Si on se laisse conduire par lui, si notre esprit, nous le remettons entre les mains de Dieu, tout ira bien. Et la présence de Dieu, elle est là. Vous savez, elle est bonne, la présence de Dieu. Je ne sais pas, je sais que la plupart d'entre vous ont expérimenté. Vous avez vu, lorsqu'on est là dans la présence de Dieu, qu'on voit cette présence qui descend, qui nous enveloppe, qu'est-ce qu'on est bien. Pendant cet instant, on oublie les maladies. On oublie qu'on est fatigué. On oublie les soucis, on oublie les problèmes. Qu'est-ce qu'elle est bien, cette présence? Comment est-ce qu'elle est bien, cette présence? Et on pourrait rester des heures et des heures et des heures. Sauf que quelquefois, la réalité de la vie nous rattrape. Mais laissez-moi vous dire quelque chose qui va nous encourager. Cette présence que nous ressentons, elle est infime par rapport à la présence glorieuse que nous allons recevoir là-haut. Ne lâchez pas prise. Ne lâchez pas prise. Que la présence de Dieu soit dans nos vies tous les jours. Tous les jours. Mais pour cela, il faut que notre temple, il faut que notre tabernacle soit construit selon le modèle qui nous est montré. Le modèle par excellence qui s'appelle Jésus. Vous savez, si je pose une question maintenant, ce matin, comment est notre temple? Faisons-nous un scanner, chacun. Comment est mon temple? Est-ce qu'il correspond? Est-ce que je suis en train de le construire selon l'image? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faudrait que j'arrange? En autre mot, comment est ton autel? On vient, on apporte quelque chose à Dieu, mais comment est ton autel? Dans quel état il est? Est-ce qu'il correspond aux Écritures? Est-ce qu'il est fait selon le modèle qui nous est montré? Vous savez, je vais vous raconter vite fait une histoire, ou un récit, qui est une histoire vraie aussi. Vous connaissez tous le prophète Élie, lorsqu'il est monté dans le mont Carmel pour affronter les prophètes de Baal. Donc je repasse l'histoire. Donc ils sont là, les prophètes de Baal, ils mettent un taureau, ils essaient de faire le sacrifice. Celui dont le feu va descendre, va consumer, ce sera le véritable Dieu. Les prophètes de Baal vont venir, ils vont mettre le taureau et rien ne va se passer. Bon, je résume vite fait. Et lorsqu'il arrive au tour d'Élie, un roi, chapitre 18 et verset 30, regardez ce qu'il va dire. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi, tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Ce qui m'a plus frappé, c'est ça. Regardez, l'image suivante, je commence à être bien en jaune. Élie rétablit l'autel qui avait été renversé. Avant de mettre le taureau, avant de faire le sacrifice, avant d'invoquer Dieu, la première des choses qu'Élie a fait, c'est qu'il a rétabli l'autel. Comment est ton autel? Comment est mon autel? S'il n'est pas par rapport à des problèmes, par rapport à des péripéties, peut-être qu'il y a eu des choses dans nos vies où l'autel a été peut-être un peu renversé. Il est temps ce matin de rétablir l'autel. Lorsque nous lisons le récit d'Élie, il ne nous dit pas pourquoi est-ce que l'autel vraiment a été détruit ou quelques pierres ont été levées. Mais Élie, ce qu'il a fait, c'est qu'il a rétabli l'autel. Élie a rétabli l'autel. Comment est ton autel? Si tu vois qu'il y a quelque chose, rétablis l'autel. Demande à Dieu et le feu de Dieu va descendre dans ta vie. Mais il faut que ton temple, il faut que ton tabernacle, il faut que ton autel soit selon les Écritures. Et autre chose, et je vais finir avec ça, l'autel où il y avait Élie était composé de 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Au temps d'Élie, le peuple était divisé en deux. Il y avait le roi du Juda d'un côté, le roi d'Israël de l'autre. Deux tribus d'un côté, 10 tribus de l'autre. En quelques mots, Élie a rétabli l'union. Nous avons besoin d'union. Pas de clan, pas de division. Pas d'un côté ci, un côté là. Non. Tu veux que le feu de Dieu descende dans ta vie. Travaille dans l'union. Rétablis l'autel. Et que ton temple soit construit selon le modèle qui nous est montré. Amen. Donc, je vais terminer pendant quelques instants et ensuite on va prier et je laisserai la place à Stéphane pendant 5 minutes qu'on puisse faire un examen de nos vies. Si je pose la question, comment est ton temple? Comment est-il construit? Selon le modèle ou selon ton modèle? Selon la parole ou selon ta parole? Selon la vision de Dieu ou selon ta vision? Et chacun d'entre nous, moi y compris, nous allons nous examiner et nous allons demander à Dieu qu'il nous aide à recevoir sa puissance et que la présence de Dieu soit dans nos vies matin, midi et soir. Amen.
Voilà, merci Seigneur pour cette très bonne prédication.